On est à la page 228, on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 17. C'est libre, ça fait un an.
Un an,
ouais. C'est la deuxième saison,
un an, ouais.
La première année.
C'est la deuxième saison, enfin, c'est la deuxième année. Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 17. Rappelez-vous, le chapitre 17, on s'est arrêté sur un verset, le verset qui est la base du Tanya, dans lequel c'est écrit « Kikarov elecha adavar me'od pefira ovilavra la soto ». Rapidement, je rappelle, on avait expliqué que ce verset-là est un verset très important que Moshe Rabbeinu dit dans la parasha Nitzavim, juste avant de partir de ce monde. Ce verset est considéré presque comme le testament de Moshe Rabbeinu. Dans ce verset-là, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et il leur dit « Mais qu'est-ce que Dieu vous demande déjà ?» C'est facile. Beficha, uvilvafra, laasoto. On avait dit parole, pensée, action. Vous vous rappelez, ce matin, on avait beaucoup parlé de ça. Que finalement, on ne demande pas à une personne de maîtriser son caractère, parce que son caractère, on ne peut pas vraiment le changer. En tout cas, on ne peut pas le changer à 100%. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle on a le libre arbitre, c'est trois choses qui sont la pensée, la parole et l'action. Et comme on l'a dit la semaine dernière, si une personne déjà arrive à dominer sa pensée, sa parole et son action, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors on a posé la question, on avait dit, mais est-ce que aimer Akadosh Baruch Hu, c'est craindre? Est-ce que, pardon, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est facile? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Moshe Rabbeinu dit, tout ce qu'on vous demande, c'est de maîtriser sa pensée, sa parole et son action. Il dit, mais c'est pas facile. Moshe Rabbeinu, il le présente comme si que c'est facile. Alors on avait dit, la semaine dernière, il y en a qui disent que oui, pour Moïse, c'est facile. Pour Moïse, c'est facile. Qu'est-ce qu'on a gagné? Nous, on n'est pas Moïse. Qu'est-ce que Moïse vient de nous voir? Il te dit, tu sais, c'est facile de maîtriser sa pensée, sa parole et son action. Nous-mêmes, on sait que se retenir de faire une bêtise, c'est pas facile. Se retenir de dire une bêtise, c'est encore plus compliqué. Et se retenir de penser une bêtise, c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué, c'est un challenge d'une vie, ça. Comment peut-être de choses comme ça que c'est facile? Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit qu'en vérité, tout ça vient à cause d'une mauvaise traduction. On a mal traduit le verset. Le verset n'a pas dit que c'est facile. Le verset a dit que c'est karov. C'est pour ça qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Karov, ça veut dire que c'est accessible. Accessible, est-ce que ça veut dire facile, Michael? Non. Accessible, c'est-à-dire que tu peux le faire. Pourquoi tu peux le faire? Et c'est là qu'on avait terminé sur ça la semaine dernière. On avait dit parce que Dieu nous a donné une arme ultime qu'on a dans notre corps, qui est le cerveau, la volonté. Le cerveau, la volonté, c'est plus fort que tout. Ça veut dire que même si t'as des pulsions tordues, t'as des pensées tordues, t'as des paroles tordues qui te viennent dans ta bouche, t'as des actions tordues qui te viennent, Dieu m'a créé d'une façon que si je veux, je peux me retenir. Donc, puisque si je veux, je peux me retenir, Moshe Rabbeinu, il te dit, après 120 ans, tu pourras pas dire, je pouvais pas. On te dira, oui, tu pouvais. Tu pourras dire, c'était dur. On te dira, bon, bah, c'était dur, d'accord. Mais tu peux pas dire, tu peux pas. Le mot, je peux pas, n'existe pas. Il faut enlever ce mot de notre vocabulaire. Et c'est là qu'on s'arrête, qu'on arrive au cours d'aujourd'hui. À savoir, est-ce qu'on peut arriver, et c'était le titre du cours d'aujourd'hui que j'ai envoyé par SMS, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, qu'une personne peut arriver à une situation à laquelle il ne peut plus se maîtriser? Vous me suivez? D'accord. Donc rapidement, pour résumer en 10 secondes ce que je viens de dire là, en 2 minutes, on a expliqué que finalement ce qu'on demande à un juif, c'est de maîtriser sa pensée, sa parole et son action. Trois vecteurs, trois choses qu'on lui demande de maîtriser. On a expliqué que pourquoi on peut les maîtriser, parce que le cerveau peut tout maîtriser, on peut tout dominer, et que c'est pour ça que j'ai lu Gravit, parce que je peux dominer. Et donc on a dit pourquoi Moshe Rabbeinu nous dit que c'est accessible, parce que toute personne au monde peut et doit se retenir, parce qu'il peut se retenir. Il a ce qu'il faut pour se retenir. Donc, je répète la question. La question qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible qu'on arrive des fois à une situation dans la vie dans laquelle on ne peut plus faire, on ne peut plus se retourner? Comme on dirait aujourd'hui en français, est-ce que c'est possible que des fois dans la vie, tellement on a fait des averot, ou bien tellement on a fait la même avera plusieurs fois, qu'on a atteint un point de non-retour? C'est ce qu'on appelle en français un cercle vicieux. C'est quoi un cercle vicieux? C'est quoi la définition de cercle vicieux?
C'est quelque chose qui tourne sur...
Voilà, c'est ça. Par exemple, quelqu'un, d'accord, il se lève très tard. Il se lève à 2h de l'après-midi. Donc s'il se lève à 2h de l'après-midi, à 11h du soir, il n'est pas fatigué. Donc du coup, il va dormir à quelle heure?
À 2h du matin.
Hein? Il va dormir à 4h du matin. Mais s'il a dormi à 4h du matin, à quelle heure il va se lever?
À 16h.
Donc du coup, c'est un exemple. Ça veut dire du coup, il ne peut plus s'en sortir. Alors pareil, c'est la même chose. Quand une personne rentre dans le goût de la vera, on va expliquer aujourd'hui, qu'il y a des fois des situations dans lesquelles la personne est dans un cycle. Et c'est un cercle dans lequel il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas s'en sortir?
Non, apparemment c'est possible, mais il faut y aller.
Ah, attendez, doucement. Des fois, il y a des situations dans lesquelles les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas s'en sortir?
Non, c'est ben possible, c'est, mais à
ça dépend de la volonté, c'est ce qu'il a dit dans le texte.
Volonté extrême.
Tu as raison, d'accord. Vous avez, donc apparemment, d'après, théorie, ce, après, apparemment, d'après ce que vous dites, avec la volonté, on peut toujours se reprendre.
Ben, c'est ce qui est marqué.
Normalement, oui.
Attends,
on
va dire,
avec la volonté, on peut tout faire.
On va voir que ce n'est pas forcément le cas. D'accord. Oui. On va voir que ce n'est pas forcément le cas.
Donc okay. Alors, il est où le libre arbitre là-dedans?
Tu as raison, ok, tu as raison, c'est une bonne question que tu poses.
Parce que tu dis que la volonté, en réalité, c'est l'expression du libre arbitre.
Tu as raison, mais d'un autre côté, quand tu te laisses aller, le bonhomme qui saute de la fenêtre, il saute, il saute du 15e étage, il arrive 10 cm avant d'arriver en bas, et il dit je regrette. Est-ce qu'il peut regretter?
Non, il peut plus regretter.
C'est fini, il va mourir.
Bien sûr.
Non, mais il faut passer à l'action. Non, mais attends,
attends, ça veut dire que.
Il faut passer à l'action, là, il est dans l'action.
Mais c'est la même chose. Quand la personne fait une avéra, il a sauté de la fenêtre. Après, il arrive, il dit, je n'ai pas envie de la faire. Il fait les préliminaires, après, dès qu'il arrive devant, il dit, je me retire.
Enfin, elle finir. Était agréable pour lui, cette avéra hein qu'il a fait.
Quoi?
S'il l'a fait.
Jusque-là, tout va bien, oui.
S'il a fait cette avéra pendant tout le temps, c'est qu'elle devait être agréable pour lui.
Ah, mais évidemment, comme celui qui a sauté de la tête, il a pris un bon bol d'air.
Voilà. c'est juste à l'impact, le reste, ça va.
Jusqu'à l'impact, tout allait bien.
Tout allait bien.
Pas au Khatan, on a quand même devant.
C'est un film de Mathieu Kassovitz qui fait comme ça. Avec
il dit quoi?
Il se raconte qu'elle fait comme ça. Qu'il se...
Kassovitz, c'est juste ça.
Alors. C'est la haine, ouais. Le thème, c'est ça. C'est qu'elle fait qu'il se... En gros, il fouille ça, je veux dire, en l'air, mais...
Jusque-là, tout va bien.
Tout va bien.
Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à qui tape. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles une personne ne peut plus regretter? On va voir aujourd'hui que la Gemara dit que oui, il y a des situations comme ça. Dans lesquelles une personne ne peut plus regretter. En tout cas, sur certaines avérotes. Pourquoi? On va expliquer pourquoi tout de suite. Donc, je suis à la page 228. Tout le monde a un livre?
28.
228.
Ah, on est passé à 3 pages de plus, là?
Eh ouais, il est endormi entre les deux.
Alors, bah, pas du tout. J'ai pas sauté par la fenêtre. Hein.
Imlo. Non, vous n'avez pas le bon livre. Vous avez le tome 2.
Ah, voilà.
Là.
Okay. Imlo.
Imlo.
Michiou.
Donc rappelez-vous, Moshe Rabbeinu nous a dit que c'est accessible. Pas seulement accessible, Karov Elecha Adavar, Me'od. Me'od en hébreu, ça veut dire quoi?
Beaucoup.
Beaucoup. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a l'air de nous dire que c'est très accessible. Pourquoi c'est très accessible? Parce que normalement, le cerveau peut tout dominer. Et le cerveau, si t'as un grand Yitzhara, bah t'as un grand cerveau capable de dire non, je fais pas. Mais il y a des situations dans lesquelles c'est trop tard. Notamment. Imlo, Michiou, Racha, Behemet. Sauf si c'est un vrai rachat. Parce qu'il y a des faux rachats. Oui, il y a des faux rachats.
Ouais.
C'est quoi un faux rachat? Enfin, ce que j'appelle un faux rachat. Un faux rachat, c'est une personne, par exemple, qui s'est laissé aller, mais qu'on ne peut pas dire qu'il a fait vraiment volontairement. Il y a des gens comme ça qui se laissent un peu aller, parce que bon, ils n'ont pas eu une super éducation, etc. Ils sont laissés un peu aller. Il n'a jamais voulu vraiment faire la vira. Donc du coup, une personne comme ça, le jour où il comprend la gravité de ce qu'il fait, bon, il se reprend assez facilement. Ça, c'est un rachat light. Mais il y a un vrai rachat. C'est quoi un vrai rachat? C'est la personne qui est conscient de la gravité de ce qu'il a fait, il sait que c'est interdit, il sait que c'est pas bien, il a une éducation comme il faut, mais quand même, il veut se faire un kiff. Et il va jusqu'au bout. Cette personne-là, te dit la Gemara, qui m'a amar abotelo zichronam livracha, comme les chachamim disent, sha rechaim en birchut libam. Que les rechaim sont dominés par leur cœur, ve en libam birchutam klal, et leur cœur, d'accord? Ils ne peuvent pas dominer leur cœur. Normalement, on a appris la semaine dernière qu'une personne normale, le cerveau domine le cœur. Mais quand c'est un rachat, eh ben, Dieu modifie son corps, qu'il n'est plus capable de maîtriser son cœur. Ça veut dire qu'automatiquement, il est contrôlé par son corps, par son cœur. Alors, bonne question. D'abord, pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça veut dire que Dieu modifie la personne? Dieu modifie le corps de la personne? Il dit non. Il dit, Veze onesh al godel veotsem avonam. En vérité.
C'est la volonté.
En vérité, cette personne-là n'a pas changé. Il reste toujours une personne, qui c'est qui domine? C'est son cerveau qui domine son cœur. Mais Dieu lui donne une punition. Il lui dit, comme tu as fait la véronde et que tu t'es laissé aller, je te donne la punition que dorénavant, c'est ton cœur qui te domine. Et comme ton cœur te domine, du coup, tu peux plus faire la véra. Parce que tu peux plus faire tes chouva. Pourquoi? Parce qu'on fait tes chouva avec quoi? Avec la tête. Quand la tête comprend qu'il y a un problème, alors on s'arrête. Mais quand ta tête, elle ne contrôle plus rien, bah, du coup, le problème ne peut plus s'arrêter. C'est une punition que Kadosh Baruch Hu donne à ces gens-là. Comme ils se sont laissés aller volontairement, Dieu lui dit, on n'est pas ici dans un self-service. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu fais le malin et quand tu te réveilles, tu vas te réveiller, on va te prendre, t'accepter tes chouvas? Non. On te bloque. On te bloque et on te laisse comme ça. Et comme ça, même quand tu voudras faire tes chouvas, tu n'arriveras pas, ton cœur sera plus fort que toi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais faire tes chouvas?
Si, il pourra.
Normalement, non, il pourra. Si. Normalement.
Concrètement, est-ce que
on dit jusqu'au dernier jour de David, tu
peux est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie d'être dans une situation dans laquelle tu as un cercle vicieux, quelque chose que tu n'arrives pas à t'en sortir? Bien sûr, ça peut arriver. Il faut savoir que c'est une punition que Dieu nous donne. Quand une personne il a fait une avéra volontairement plusieurs fois d'affilée, Dieu ne le laisse pas sortir de cette avéra. Dans tout le reste, il peut être parfait. Mais de cette avéra, il ne laisse pas sortir. Pardon ? On peut dire comme ça, oui. C'est pas qu'il a eu...
Pourquoi il devrait prendre en compte, il devrait réfléchir, s'il n'a pas le moyen de ne pas les faire.
Donc ça veut dire qu'il a raison. Donc ça veut dire qu'on est absous de cette affaire.
C'est pas ça. C'est qu'il faut comprendre que lorsque la personne est allée jusqu'au bout, alors évidemment, après il est prisonnier de la propre situation dans laquelle il est rentré. Comment tu veux dire?
Oui, mais alors, il est... comment on peut juger quelqu'un qu'on a...
Ça veut dire qu'il est maudit, quoi, en fait. Le mec,
d'accord. Je vais te donner un exemple. Imagine-toi une personne qui se drogue, tu le préserves. Avec le temps, il y a une accoutumance. Comme ça, on appelle ça?
C'est ça.
Eh bien. Maintenant, est-ce que...
Une dépendance.
D'accord. Une dépendance. Ça veut dire que la première fois, il l'a fait. La première fois, il l'a fait par plaisir. Après, il y a une dépendance. OK. Est-ce qu'il peut décider d'arrêter?
Non, il ne peut plus rien faire. Il est mort.
Est-ce qu'il peut décider d'arrêter?
D'accord.
Non, qu'est-ce que vous pensez?
Avram, qu'est-ce que tu penses? Il peut décider son pouvoir.
Il peut vouloir arrêter, mais il ne peut pas arrêter. Il va devoir, le maximum qu'il pourra faire, il pourra décider d'aller dans un centre spécialisé. D'accord. Il va faire une cure de désintoxication. Attends, justement, c'est ce qu'il dit ici. En vérité, il n'y a rien qui tient devant la volonté, mais Dieu peut punir quelqu'un. D'accord. Dieu peut punir quelqu'un, il lui met les bâtons dans les roues. Comme celui-là. Il s'est drogué. Après un jour, il dit, je vais m'arrêter. Il n'arrive plus à s'arrêter. Puisque son corps est habitué. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit ici, c'est qu'en vérité, le rachat ne se maîtrise plus du tout. Il n'arrive plus à se maîtriser. C'est-à-dire que même à un moment dans lequel il se dit, il faudrait que je m'arrête, il n'arrive plus à s'arrêter. Et je vais vous dire plus que ça. Ce rachat, même quand il arrive à Kippour et qu'il se dit, ça y est, il faut que j'assure, il n'arrive pas à reprendre. C'est fini, il n'arrive pas. Il veut reprendre, mais il n'arrive pas. Je n'ai pas dit qu'il ne veut pas reprendre. Il veut reprendre, mais il n'arrive pas.
Mais dans le cas de la drogue, on a compris. Mais dans notre cas, on a vu dans un chapitre précédent, ou dans quelques pas juste avant, qu'en réalité, on ne pouvait pas, quand on allait là-haut, quand on faisait l'addition,
oui.
On ne pouvait pas nous reprocher une addition négative si et seulement si on n'avait pas l'action, la possibilité
très bien.
De pouvoir d'aller vers un droit, vers un autre.
C'est pour ça qu'il a précisé ici, qu'on parle ici d'un rachat béhémet.
Mais comment tu sais qu'il y a un rachat béhémet?
Alors moi je dis, c'est quoi un rachat béhémet? Un rachat béhémet, c'est une personne qui est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de la gravité de ce qu'il fait. Et il le fait quand même par pur plaisir.
Mais peut-être que tu ne peux pas être complètement dire... rachat béhémet, mais sur certains points, tu peux être rachat béhémet.
Exactement. Béhémet, c'est exactement ce que tu dis. C'est très juste. Ça veut dire que, comme tu as dit, on peut être sadique sur beaucoup de mitzvot. Sur une avéra spécifique, elle ne te lâche pas.
Alors comment on peut, quand j'arrive là-haut, qu'on présente la situation, comment tu peux me...
Dieu va te dire, tu es pris dans un cercle vicieux.
Non, c'est d'accord, je suis pris
c'est un honnêteté que Dieu me donne. Alors, il y a deux questions qu'on se pose. D'abord, dans ce cas-là, est-ce que béhémet, on peut s'en sortir? D'accord. Et surtout, à quel point ça me sera attribué, puisque je ne me maîtrise pas? On va en parler de tout ça. On a tous des choses dans la vie sur lesquelles on s'est laissé aller et qu'après on n'arrive plus à se maîtriser. Et c'est très important. Des choses, ça veut dire, je vous donne un exemple. Un exemple qui est ramené dans la Chassidout, qui est ramené aussi beaucoup dans le Midrash. Imaginez une personne, par exemple, qui a une renommée de menteur ou de voleur. Un jour, il décide de s'arrêter. Mais c'est impossible, il n'arrive pas. Parce que dès qu'il commence à essayer de faire le sérieux ou de blagueur, dès qu'il commence à essayer de faire le sérieux, tout de suite les gens, comment ils le regardent, il a une étiquette. Se défaire d'une étiquette des autres, c'est très compliqué. À plus forte raison, se défaire d'une étiquette que j'ai sur moi-même. Ça veut dire que si je me vois comme un bon à rien, c'est très difficile de me convaincre du contraire. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que c'est un bâton, ça veut dire à force de me laisser aller, et bien Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que je rentre dans une sorte de routine qui est très 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 difficile de s'en sortir. Voilà pourquoi la Gemara nous dit que les Réchaïm sont dominés par leur cœur, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et donc eux, Béhémet, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas ce pouvoir de sortir de la chose dans laquelle ils sont rentrés. Alors, Velo Dibra Torah Bemetim, la Torah ne parle pas des morts, et la Shebechayim Kurim Metim, elle parle des gens qui, de leur vivant, sont appelés morts. C'est très dur ce qu'il dit ici. C'est écrit, non, on le dit d'ailleurs dans le Hallel, Lo Hametim Yehalleluya. Ceux qui sont morts ne pourront pas louer Dieu. Pourquoi vous pensez? Quelqu'un ici qui pense que ceux qui sont morts peuvent louer Dieu? Celui qui est mort, il est mort. En plus, la Gemara pose la question. Elle dit, mais il est mort. Mais une fois qu'une personne part de ce monde, où il va? Hein, on en a parlé ce matin. Hein, Yves, on en a parlé ce matin. Une personne qui part de ce monde, où il va? Et au Gan Eden, vous croyez qu'il loue pas Dieu? Bien sûr qu'il loue Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on lit dans Tehilim? D'accord? C'est le Tehilim, c'est le psaume 115. On dit Lo Hametim Yahalleluya. D'accord? Les morts ne peuvent pas louer Dieu. C'est vrai que les morts ne peuvent, bien sûr que les morts peuvent louer Dieu. La Gemara dit comme ça. Elle dit quand on parle des morts, on parle pas des gens qui sont morts. Parce qu'une personne qui est mort, bien sûr qu'il va louer Dieu encore plus que nous. Parce qu'il a que la Neshama. Et la Neshama, bien sûr qu'elle va continuer à louer Dieu. Quand la Neshama, t'es à l'Elia. Toute la Neshama va louer Dieu. Évidemment, c'est pas le corps. Le corps, c'est juste un berceau pour la Neshama. Mais c'est évident que si la Neshama, quand elle était dans le corps, elle louait Dieu, c'est sûr qu'on va continuer à louer Dieu. Alors, qu'est-ce que le roi David veut dire quand il dit, Lo hametim yeh alléluia, que les morts ne peuvent pas louer Dieu? De qui on parle? On parle des gens qui, de leur vivant, sont considérés comme des morts. Ça veut dire quoi? Comment de son vivant, on peut être considéré comme un mort? C'est des gens qui n'ont pas la vie. C'est quoi la vie? Quand on est attaché à Dieu, on est vivant. Quand on n'est pas attaché à Dieu, on est mort. Comme c'est écrit dans Tehilim, ki imcha mekor chaim. C'est seulement ceux qui sont attachés à Dieu qui sont attachés à la source de la vie. Dieu, c'est la vie. Celui qui est attaché à Dieu, il est vivant. Celui qui n'est pas attaché à Dieu, il est mort. Le rachat, comme il n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, il est devenu mort. Ça veut dire que c'est comme si tu as un mort qui marche devant toi. Quelle est la différence entre un vivant et un mort? C'est que le vivant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, d'accord? Mais quand une personne est mort, quand il est mort, il est mort. Ouais. Imaginez le rachat. Dieu, c'est comme si qu'il l'a tué. Et toi, pour ça, tu es mort maintenant. Ça veut dire que le bonhomme, tu le vois devant toi, il est vivant, il marche, il dort, il boit. Mais par rapport à cette avéra, c'est considéré comme un mort dans le sens qu'il peut plus changer. Voilà pourquoi il dit, c'est la Gemara qui dit ça, que le rachat de sa vie, il est appelé un mort. Ça veut dire qu'il n'est plus capable de changer. La différence principale entre une personne qui est vivante et une personne qui est morte, c'est que une personne qui est vivante, il peut changer, il peut évoluer, en bien comme en mal. Une personne qui est morte ne peut plus évoluer, il est figé. Tel qu'il est, c'est comme ça qu'il restera. Alors justement, le rachat, quand il a fait des avérot volontairement, de tout son cœur, Dieu le rend mort par rapport à la vera qu'il a fait. Donc du coup, il n'arrive plus à faire teshuva. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrive plus, il est figé. C'est-à-dire qu'il reste dans une situation figée. Qu'il est figé, qu'il a une étiquette de rachat. À ses yeux, c'est un rachat. Aux yeux de tout le monde, c'est un rachat. Et béhémeth, la Torah ne parle pas pour une personne comme ça. Maintenant, la question qu'il pose, il dit, mais alors quoi? Alors ce rachat-là, il est cuit, c'est fini. Imaginez que je fais une avera, et que cette avera, je l'ai fait des centaines et des milliers de fois. Donc par rapport à cette avera, je suis déclaré, on a dit, mort. Mort, ça veut dire que c'est figé. Ça veut dire que... Non, alors justement. Alors quoi? Ça veut dire que c'est fini, c'est cuit? Jusqu'à la fin de ma vie, ce sera comme ça?
Oui, il y a des tas de gens qui font pas, par exemple, tabac pendant des années, puis un jour, ils décident de le faire.
Ces gens-là, ils n'étaient pas des vrais rachats.
Pourquoi pas?
Ils n'étaient pas des vrais rachats, ces gens-là. Parce qu'on a dit un vrai rachat, c'est une personne qui est consciente de la gravité de ce qu'il fait et qui le fait quand même.
Mais oui, mais celui qui ne faisait pas chabat,
celui que tu parles, non, il le savait, mais il n'était pas conscient. On peut le savoir. Tu prends par exemple une personne qui était fumeur pendant des années. Je te donne un exemple pour illustrer ce que ça veut dire, la différence entre savoir et comprendre. Prends une personne par exemple qui est fumeur pendant des années, d'accord? Et le docteur lui dit c'est pas bien, il faut arrêter. Sa femme lui dit c'est pas bien, il faut arrêter. Ses enfants lui disent il y en a marre, ça pue. Il s'arrête pas le bonhomme. Et un jour, il a 50 ans, 60 ans, il apprend qu'il y a un copain à lui qui est mort. À cause de quoi il est mort? À cause de la cigarette. Puis d'un coup, pac, il arrête de fumer. Pourquoi? Il dit parce que j'ai compris que c'est grave. Pourquoi? Avant, tu savais pas que c'était grave? On te l'a dit, on n'arrête pas de le dire. Parce que il y a des choses qu'on peut savoir, mais qu'on réalise pas. Et à certains moments, avec quand
donc,
je vais apprendre.
Donc c'est un vrai rachat parce qu'il le sait. On lui a dit 100 fois.
Non, c'est qu'il arrête de fumer. Un rachat, c'est pas quelqu'un qui le sait, c'est quelqu'un qui réalise la gravité de ce qu'il fait. Tu comprends? Quand il réalise la gravité de ce qu'il fait, là, dans ce cas-là. On va l'appeler rachat. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière rapidement, mais je vais le répéter encore. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui répondent à cette définition d'être un vrai rachat. Ça veut dire réaliser la gravité de ce que je fais, et je le fais quand même. Je pense que ce que Michael a dit, c'est très juste, qu'en vérité, on va avoir aujourd'hui plutôt des rachats, BMET, sur une avéra spécifique.
Non, mais je veux dire, la nuance entre réaliser et savoir. Très mince.
C'est moins effectif. Je vais te dire plus que ça, on le maîtrise pas. tu ne le maîtrises pas. Qu'est-ce qui fait la différence que tu sais quelque chose?
Tu réalises quelque chose automatiquement, tu l'appliques. C'est obligatoire.
Combien de fois ça nous arrive dans la vie, on nous répète une chose plusieurs fois.
Non mais.
Et t'as pas le déclic, ça te dérange pas. Et à un moment t'as un déclic, tu dis mais c'est grave.
Parce que je viens de le réaliser.
T'as combien de personnes?
Tu le savais. On peut savoir quelque chose, mais ça reste quelque chose qui est dans la tête. C'est une information qui est classée dans ma tête. Et à un moment, je réalise. C'est le da'at qu'on avait expliqué dans le chapitre 3. C'est-à-dire que je réalise. C'est-à-dire que je suis conscient de la chose. Ça, être une personne qui est consciente de la gravité de la vera, pas seulement le savoir, et réaliser la gravité de la vera et le faire quand même, très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare.
Il y en a beaucoup à qui tu dis, tu sais ce que Shabbat, ce que c'est, ça représente. Tu dis oui, je sais, mais
on n'a pas conscience de la.
Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Il n'est pas éduqué. Non, il n'est pas conscient. Ouais. Il sait qu'il y a un rabbin qui lui a dit que c'est grave, mais il n'est pas conscient. C'est comme ce fumeur qui sait que c'est pas bien parce que sur le paquet c'est écrit. Fumer tu, et on te montre des paquets de des images bizarres comme ça. Il sait ça, il le sait. Mais c'est,
on fume quand même.
Il sent pas qu'il va mourir. Bon, il voit une image d'un mort, il sent pas qu'il va mourir. D'accord? On lui met une tête de mort. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre? Il faut qu'il mette un ossement d'un mort pour que tu comprennes. Et il comprend pas.
C'est pas si évident pour Shabbat. Il y a la notion de Shabbat, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Pourquoi? Pour lui, c'est insignifiant. Est-ce que nous-mêmes, quand on est à notre condition de Shabbat, est-ce que si on pouvait allumer la lumière, faire des trucs bénin comme ça, est-ce que ça changerait notre condition de Shabbat?
Bien sûr.
Non. Comme ça, on dirait, bon, on est dans Shabbat, mais on allume la lumière.
Imagine-toi que les docteurs du monde entier...
C'est difficile d'assimiler. Non, mais c'est difficile d'assimiler. Non, mais Shabbat entend...
Et pourtant, aujourd'hui...
Ah, là, c'est différent. Là, c'est autre chose. Là, c'est plus compliqué. Il y en a. J'ai pas dit qu'il y en a pas. Il y en a, mais c'est plus rare. Non, bah c'est différent. Une personne qui a une famille religieuse, il a quand même réalisé.
Il sait de quoi il parle.
Bah, elle a réalisé. Non, je pense qu'elle a réalisé. Non, après, c'est déjà différent. Ouais. On peut toujours se défendre, ouais. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué.
Je pense qu'on ne peut pas se battre. Réaliser, ça veut dire avoir les tenants, les aboutissants, les apportants.
D'accord, non, bon, j'ai compris. Mais bon, il ne peut pas dire quand même qu'il n'était pas conscient de ce qui fait que c'est grave. Alors, Béma, qu'est-ce qui va se passer en général? Non, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. On dit comme ça. On dit qu'en vérité, le plus dur pour faire une avéra, c'est la première fois. Quand tu fais la première fois la vera, t'es dérangé, ça te dérange. Deuxième fois, ça te dérange un peu moins. Troisième fois, non. Qu'est-ce que dit la Gemara? T'as l'impression que c'est permis. C'est-à-dire, tu te dis, bon, ça va, c'est permis. Quatrième fois, dit Rabbi Israël le Salant, t'as l'impression que ce que t'as fait, c'est une mitzvah. C'est sérieux? C'est sérieux? Une fois, j'ai lu.
Il a dit la quatrième fois, c'est bon.
D'accord. Une fois, j'ai lu dans un message. C'est sérieux, d'accord? Je veux dire. Couper enregistrement pour ça. Déranger. Deuxième fois, d'accord. Deuxième fois, il dit bon, un peu moins dérangé. Troisième fois, encore un peu moins dérangé. Quatrième fois, il dit c'est bien.
À partir de la quatrième, il le disait à chaque fois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais expliquer ici, c'est que une fois qu'on est entré après dans un cercle vicieux, c'est très 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 difficile à se sortir. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que je fais teshuva? Ce qui fait que je fais teshuva, c'est que la vera me dérange. Et après un certain moment. À force de faire la vera, Dieu fait en sorte que la vera me dérange plus. Et que ça me dérange plus. C'est-à-dire qu'on me dit c'est grave, mais ça rentre pas, ça me dérange pas. Ça, c'est la punition que Dieu me donne. Il n'y a pas de punition plus grave que ça, que de pas réaliser la gravité dans laquelle on se trouve. Le rabbi de Kotsk avait l'habitude de dire la chose suivante. Il disait, le plus grand exil, c'est quand on oublie qu'on est en exil. Je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un, il va en prison. Il est en prison, il est en taule, il est en prison, le bonhomme. Bon, tant qu'il réalise qu'il est en prison et que c'est pas ici la vraie vie, c'est bien. Mais après un moment, à force de rester en prison, pour lui, c'est ça la vraie vie. Et ça, c'est le plus grand emprisonnement. C'est la même chose. C'est-à-dire que le rachat, première fois qu'il a fauté, il savait que c'est pas bien. Au moins, il savait que c'est pas bien. Mais à force de fauter après, qu'est-ce qui se passe? Ça devient la norme. Il n'arrive même plus à s'en sortir. Pour lui, c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça que je serai, et c'est normal. Et c'est très difficile après à sentir que c'est pas normal, et de faire teshuva. C'est-à-dire qu'après, c'est quelque chose qui est comme ça dans sa tête. Voilà pourquoi il dit ici que ça, par rapport à ça, la personne peut être déclarée mort. Par rapport à certaines choses, on peut être déclaré mort. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans notre vie qui restent figées, pour lesquelles, comme on dit en français, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. D'accord? Qui béhémet, car en vérité, alors dans les mots, on a la page 230. Qui béhémet, car en vérité, Iyef char la rechaim la tril la vodachem. Blish et yasu tshuva la vartrila. Il dit béhémet, en vérité, le rachat ne peut pas commencer à servir Dieu s'il n'a pas fait teshuva sur le passé. Pourquoi il ne peut pas faire teshuva? Vous savez pourquoi? C'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit parce que quand on a fait des averot, chaque fois qu'on fait une avera, on met un voile entre nous et Kadosh Baruch Hu. un voile. Et chaque fois que tu fais une avéra, tu rajoutes, tu mets un voile. Maintenant, au début, le voile, il est fin. Mais avec le temps, tu mets un voile sur un petit voile, sur un petit voile, sur un petit voile, c'est comme le nuage, tu vois. Qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Au bout du compte, j'ai un mur. Et donc, du coup, le bonhomme, même quand il veut décoller, il peut plus. Parce que toutes les avérotes qu'il a fait, on laissait une trace dans son corps. Son corps a gardé la mémoire de ses avérotes. Et du coup, il y a un, comme il dit ici, les chabers à clipote, il va devoir casser l'écorce qu'il y a autour de lui. Chez Massar Mavdil, qui sont un voile qui sépare, ou Mechitsa chez le Barzel. C'est comme une Mechitsa en fer. D'accord? Pas une Mechitsa comme ici. Mechitsa en fer. Ça veut dire que c'est fini. Amav Seket Benam Laviam Sheba Shamaim. Ce rachat-là, tellement il a fauté, qu'il y a comme une Mechitsa qui sépare entre lui et Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il arrête de penser à Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu arrête de penser à lui?
Non.
Mais comme dit le roi David, il dit « Bor kara vayar pereu ». Il a créé un trou dans lequel il est lui-même tombé. Après, il arrive au fond du trou, il dit « Yeah, je suis au fond du trou ». On dit « Mais c'est toi qui as creusé ton trou ». Le roi David, il dit ça. C'est ça le problème. Quand on fait une avéra, volontairement, on fait exprès, c'est comme si tu creuses un trou et tu tombes dans ce trou et après c'est trop tard. Après, il dit « Je vais regretter, c'est trop tard ». Voilà pourquoi il dit ici que même une personne comme ça qui a fait d'avérote volontairement, il arrive à une situation dans la vie dans laquelle il ne peut plus regretter et dans laquelle il atteint un point de non-retour.
C'est jamais volontaire, il y a toujours les tarats qui a poussé.
Évidemment, mais au début, tu es conscient de ce que tu fais.
Il est toujours conscient.
Tu te laisses aller.
Je sais parce que j'ai quelqu'un qui me pousse à le faire.
D'accord, mais tu t'es laissé aller.
Mais si, il y a
très bien. Alors c'est une punition d'Akadosh Baruch Hu. Dieu il dit qu'est-ce que tu crois?
Avant la punition, la première fois, quand je creuse.
Je savais que c'était pas bien.
Je sais que c'est pas bien, mais je suis.
Prends par exemple quelqu'un qui a fait la yeshiva.
Oui, mais
et tout d'un coup, il arrête de faire Shabbat. Tu le vois maintenant en train de fumer Shabbat et travailler Shabbat. Ouais. C'est pas venu d'un coup. C'est pas d'un coup, il a dit bon, ça m'intéresse plus.
D'accord.
La première fois qu'il a fait, il a pris la cigarette Shabbat.
Ouais.
C'était dur et c'était très très dur pour lui. Il l'a fait, il s'est battu avec lui-même pour le faire. Parce qu'il voulait se prouver qu'il veut le faire, donc il l'a fait. C'était très dur. Après, il a fait une fois, deux fois, trois fois. Après, bien sûr, à force de le faire, ça le dérange plus. Maintenant, tout d'un coup, un jour, il se réveille, il dit « J'ai envie que ça me dérange ». On dit « Mais c'est fini, t'es bloqué ». Alors, est-ce que c'est vraiment fini? Écoutez la définition que va donner l'Admor HaZaken. Il dit « C'est pas que c'est fini. C'est qu'il est pris dans un cercle vicieux. C'est qu'en vérité, c'est très intéressant la manière dont il présente. Il dit voilà. Il dit en vérité, moi je suis là, Dieu est là. Normalement, on communique. Moi, ma Neshama continue à envoyer des signaux vers Dieu. Dieu continue à envoyer des signaux vers moi. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de mes avérotes, j'ai créé un mur. Donc, je continue à capter et d'entendre qu'il y a un signal qui est envoyé vers moi. Moi, je continue à envoyer des signaux, mais qu'est-ce qui se passe? Le signal revient. Il est bloqué par le mur. Donc, la seule solution, c'est quoi? C'est de faire sauter le mur. Comment on fait sauter le mur?
Superman.
D'accord, comment tu fais sauter le mur? Est-ce qu'il faudrait faire autant de mitzvot que la verrote qu'on a fait? C'est impossible, on n'arrivera jamais. D'accord.
Machin.
C'est quoi la solution? La solution, c'est qu'en vérité, comme il va dire ici, la solution, c'est que dans ce cas-là, quand tu vois que ça passe pas, tu vas devoir briser ton cœur. Et là, BMS, quand une personne fait teshuva, alors c'est vrai qu'on encourage toujours la simra. Et c'est pas moi qui vais le répéter. C'est évident qu'on encourage toujours la simra et que c'est important la simra. Mais il y a des situations dans la vie, dans laquelle il faut qu'il y ait quelque chose qui se cache chez la personne, qui comprend qu'il y a un problème. Et quand il y a quelque chose qui va se briser, là, à ce moment-là, il va faire teshuva. Regardez, on voit par exemple souvent, c'est expliqué dans le Kuntra Saïchtatrout, qu'on voit par exemple souvent des gens qui font teshuva lorsqu'ils perdent quelqu'un de la famille.
Lorsqu'ils perdent
quelqu'un dans la famille. Oui. Ils se mettent à pleurer et là, ils font teshuva. Pourquoi? Parce que, à force de faire d'avérot, qu'est-ce qui se passe? À force de faire d'avérot, on met un voile. Et tant que ce voile-là, tu le casses pas, tant que tu ne te mets pas à pleurer et que tu comprends pas qu'il y a un problème, eh ben, il bougera pas. Seulement, qu'est-ce qui se passe, des fois, quand Dieu préserve, on perd quelqu'un de la famille, ou bien quelqu'un qui tombe malade, ou bien, etc., des choses comme ça, des choses qui nous secouent. Alors, automatiquement, quand on est secoué, on se met à pleurer. Quand on se met à pleurer, alors, automatiquement, le voile qu'on a mis, la méritza qu'on a mis devant l'âme divine et qui nous bloquait, cette méritza saute. Voilà pourquoi on voit très souvent, des gens qui commencent à faire teshuva suite à un événement comme ça qui s'est passé dans la vie.
D'accord?
Alors, justement, je termine la logique. Donc, il dit la même chose. Il dit maintenant, on s'adresse à ce rachat. Tu as un bonhomme qui est rachat, qui a fait d'avérot volontairement, rachat béhémet, hein Marcel, c'est-à-dire quoi béhémet? C'est-à-dire rachat
volontaire,
un rachat volontaire, véridique, un rachat, véritable rachat, un vrai rachat, un rachat, pas un amateur, un vrai, un pro. Le bonhomme maintenant il fait d'avérot, il se laisse aller, etc. Un jour, il arrive, il veut se reprendre, il est bloqué, pourquoi il est bloqué? Parce qu'il y a un mur maintenant. Et c'est trop tard. Et ce mur-là, pour l'enlever, il faudrait faire autant de mitzvot, c'est fini, c'est impossible. Il faut faire autant de mitzvot que la verrotte qu'il avait, c'est pas possible. Il dit, la seule solution, il y a une seule chose qui est une bombe atomique qui peut tout faire sauter. C'est quoi la bombe atomique qui peut tout faire sauter? C'est le cœur brisé. On va voir, il y a des psukim qui disent ça. Il y a le fameux psaume 51, qui est le psaume très connu de la Teshuvah.
Alors il est brisé comment le cœur?
On va expliquer, on va expliquer.
Comment brise?
On va expliquer, attendez. Le cœur brisé, c'est quand à un moment, c'est pas seulement tu comprends que c'est pas bien, mais tu réalises que tu es dans une situation catastrophique, à tel point que tu en es dérangé, à tel point que tu sens que tu t'as pleuré de ça. T'es dérangé de ça. Là, il y a quelque chose qui s'est cassé en toi. Quand il y a quelque chose qui s'est cassé en toi, là, on peut dire que le massar, le voile qu'il y a entre toi et Kadosh Baruch Hu, il a sauté. Et là, à ce moment-là, t'es comme un enfant. Ça veut dire que chaque fois qu'on arrive à pleurer et à tout faire sauter, eh ben, à ce moment-là, on est comme un enfant devant Kadosh Baruch Hu. Mais ça, on va devoir développer. Qu'est-ce que ça veut dire les teshuvah par les pleurs? D'abord, il y avait des questions. Je fais une pause question. Alors, Abraham, t'avais une question.
Ah, c'est une question. En principe, ça devrait être le contraire. Quelqu'un qui est rachat BMF.
Oui.
Et qui lui arrive une catastrophe, il perd un proche. Il
d'accord.
Encore plus se rebeller.
Non, parce que, encore une fois, la neshama, elle continue à envoyer des signaux.
Oui.
Et quand il y a des grands moments dans la vie, elle sent que c'est un grand moment.
Non, il y a un mur de Barzel.
Non. Le mur de Barzel, c'est pas un voile qui couvre sa neshama. C'est un voile qui sépare entre lui et Dieu. C'est-à-dire que ma neshama, elle continue à s'exprimer. Elle m'envoie des signaux de temps en temps. Seulement, j'arrive pas à communiquer avec Dieu parce que entre moi et Dieu, il y a un massar. Chaque fois qu'on fait une avera, on met un voile. Alors après, le bonhomme, il dit, j'ai envie de communiquer. Il essaye de décoller, mais il retombe. Et c'est ma mâche, la vie, ça, c'est ma mâche, la vie d'un rachat. La vie d'un rachat, c'est quoi? C'est que même quand il décide de se reprendre, il essaye de décoller et il se casse la figure. Parce qu'il y a un blocage. C'est ma mâche comme ça. Il essaie de te reprendre, pas que tu retombes. Il essaye, il retombe. Et chacun de nous, on a pu ressentir ça dans notre vie, pour des avérotes qu'on a fait, plusieurs fois, et que tu essayes de redécoller, et tu te casses la figure. Tu essayes, sur une avéra spécifique, et tu te casses la figure. Il te dit que cette avéra-là, comme tu as un voile qui sépare entre toi et Kadosh Baruch Hu, tant que tu ne passes pas par la case teshuva, par le cœur brisé, qu'on va développer longuement ce que ça veut dire, tant que tu passes pas par ça, il y aura toujours ce voile et tu pourras jamais décoller. C'est-à-dire toujours, tu essayeras de décoller, mais à un moment, tu vas te casser la figure.
Et pourquoi le signal, c'est un élément négatif et pas un élément positif?
Ah, c'est un élément extrêmement positif, le signal.
Il y a la mort de quelqu'un, c'est
positif. De quoi? Non, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être Yom Kippour, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être la guerre en Israël. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir ici. Il y a des gens qui sont venus me voir ici pendant la guerre, la dernière guerre qu'il y avait là. Comment s'appelait la dernière guerre en Israël? Plan durci? Plan durci. Il y a des gens, tu entends Abraham?
Non,
c'est pas, non, comment s'appelait la dernière guerre?
Ah, bordure.
Bordure protectrice. Il y a des gens qui sont venus me voir ici, des gens qui font même pas Kippour. Et quand j'ai entendu qu'il y a la guerre en Israël, ils sont venus me voir ici. Ils ont dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on peut faire? Des gens que j'ai vus ici, là, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne que, même Kippour, ça lui parle pas. Mais même pas Kippour. Enfin, il fait pas Kippour. Il vient pas à Kippour à la synagogue, ça lui parle pas vraiment. Et quand il a entendu un truc en Israël, sa neshama, elle a vibré. On sait pas ce qui fait vibrer une neshama. Chacun, il y a des choses qui font vibrer sa neshama. Leur neshama a vibré, et il est venu. Mais c'est quoi le problème de ce juif-là? Alors bon, lui, le pauvre, je pense pas que c'est un vrai rachat. Mais c'est quoi le problème d'un juif comme ça? C'est qu'avec le temps, il a un voile. Il faut faire sauter ce voile. Quand t'as un vrai rachat, t'as un voile en fer. Quand t'es pas un vrai rachat, t'as un voile en carton. Ça veut dire que bon, comme c'est pas d'avérote volontaire qu'il a fait, c'est un voile en carton. Dès qu'il décide de partir, c'est ce qui fait tout sauter. Quand on fait une avéra volontaire, on fait une amérita en fer. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand je fais une avéra involontaire, je suis pas conscient de ce que je fais, je crée une méritza en carton. Donc dès que je décolle, tout saute. Mais quand je fais une avéra volontaire, je crée une méritza en fer. Chaque fois que je refais la vera, j'en remets une couche, c'est pour ça que ça ne peut pas décoller. La seule manière de tout faire sauter, c'est quand je vais pleurer et quand je vais briser mon cœur. Mais on va développer tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? David, je ne t'ai pas entendu aujourd'hui. Hein.
Tu ne m'as pas
entendu? Ah non. Hein? Allez, on va dire un petit Rahim.
J'écoute.
Alors, Rahim.
Et tu disais, par rapport aux éléments plutôt positifs que négatifs, ouais. En général, hein, ce qui fait bouger, c'est pas prendre les...
Va,
les gens qui reçoivent, qui, en général, ils ont fini même par oublier d'eux. Ils peuvent pas avoir de nombreuses richesses, ce que tu veux. Au contraire, c'est positif qui leur fait oublier. Parfois.
C'est très aléatoire. Tu vois une personne, par exemple, qu'il va avoir une situation qui lui rappelle un souvenir d'enfance. Et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tac, ça a décollé. Il va avoir une photo, il va voir, je sais pas, il va voir quelqu'un qui lui rappelle son grand-père. Il va faire un rêve, des trucs comme ça, aucun rapport. Et tout d'un coup, il va repartir. On ne sait pas ce qui fait décoller une personne. Très aléatoire.
Mais
pas dit pour beaucoup de
personnes,
oui. Sinon vous donnez Dieu, ça avance.
C'est
le...
C'est aussi en général le sous-mouvement
parce qu'elle
cherche un refuge, tu vois, donc elle cherche un refuge dans une communauté,
Tu as raison, il y a ça aussi, tu as raison. Tu as raison. Je vais répondre à la question.
Est-ce que c'est vraiment durable?
Je vais reprendre l'exemple d'une personne qui a perdu un proche. D'accord? Je vais répondre à la question. La question qu'il pose, il dit, mais finalement, c'est vrai que des fois, quand une personne passe par des moments difficiles, le fait qu'il va vouloir venir à la synagogue et tout, c'est pour trouver un refuge.
Un réconfort et un refuge.
Donc, la réponse est la suivante. C'est qu'en fait, bien sûr qu'il vient pour trouver un refuge. Mais quand une personne passe par un moment difficile, c'est un moment dans lequel son cœur s'ouvre. En général, un homme est très égoïste. Quand je dis égoïste, c'est-à-dire qu'il pense à personne et même à Dieu, il ne pense pas. C'est-à-dire que son cœur est fermé. Quand on arrive par des moments comme ça, le cœur s'ouvre. C'est-à-dire c'est un moment dans lequel on met de côté un petit peu la raison, on met de côté un peu l'égoïsme et on voit les choses telles qu'elles sont réellement. Pas telles qu'on a envie de les voir. Dans un moment comme ça, c'est un moment de vérité. On a quelques moments dans la vie dans lesquels c'est un moment de vérité, dans lequel tu sens les choses telles qu'elles sont vraiment. Une personne qui perd des proches, ou Dieu préserve, ou qui passe par un moment difficile, c'est un moment dans lequel il revient à la vérité. Il revoit les choses telles qu'elles sont vraiment. Et dans un moment comme ça, il se remet en question. Parce que comme il revoit les choses telles qu'elles sont réellement, il se remet en question. Il met de côté son orgueil.
Il atterrit.
Comme il met de côté son orgueil, parce qu'il y a une situation qui le met dans la vie, il voit bien qu'il ne maîtrise rien du tout. Donc son orgueil a été mis de côté. Il faut savoir que l'orgueil, c'est l'ennemi numéro un de l'homme. Mon orgueil fait que j'ai envie d'écouter personne. Même mon âme, j'ai pas envie d'écouter. Je suis orgueilleux. Quand il y a des situations comme ça qui cassent mon orgueil, quand l'orgueil est cassé, automatiquement la neshama s'exprime. C'est ce qu'il veut dire ici. Quand une personne pleure, ça veut dire quoi? On dit que les hommes, ils aiment pas pleurer. Pourquoi les hommes, il y a des hommes qui aiment pas pleurer et qui pensent que c'est même une honte? Parce que c'est de l'orgueil. Parce que pleurer, ça veut dire quelque chose qui te dépasse. Vous savez pourquoi on pleure? On dit que quand on pleure, ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse, comme ça le Zohar explique, je sais pas comment le médicament on explique, mais le Zohar il dit que les pleurs, ça vient quand il y a un trop-plein dans le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau c'est quelque chose qui ne peut pas contenir, donc il y a comme une sorte d'explosion, et de cette explosion, le Zohar appelle ça les, je sais pas comment on peut traduire ça, les dérivés du cerveau. C'est-à-dire ce que le cerveau explose, et c'est de ça.
Débordement.
Et c'est pour ça que te dit le Zohar, c'est intéressant. Le Zohar te dit, des fois, tu peux avoir des larmes de tristesse, et tu peux avoir aussi des larmes de joie. C'est quoi des larmes de joie? Des larmes de joie, c'est quand, encore une fois, c'est la même chose. C'est quand l'événement est tellement puissant, que mon cerveau n'arrive pas à contenir tout ça, c'est trop fort pour le cerveau. Donc il y a un débordement, et quand il y a un débordement, il y a des larmes. Mais c'est très bon s'il y a des larmes. S'il y a des larmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé l'orgueil. J'ai arrêté de dire je gère, je maîtrise. Non, j'ai compris que je ne gère pas. J'ai compris qu'il y a des choses qui me dépassent. Que ce soit pour une joie, que ce soit pour une tristesse. Voilà pourquoi il dit, ce rachat-là, finalement, la seule situation dans laquelle il pourra sortir de son cercle vicieux, c'est quand il y a une situation dans laquelle il va casser son orgueil. Alors, soit il peut décider de provoquer ses pleurs. C'est très compliqué de provoquer des pleurs. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire qu'il faut te mettre à réfléchir, comment c'est grave ce que je fais, et réfléchir. Jusqu'à ce moment, il y a un déclic. Mais le déclic, il peut prendre des années avant de venir. Il peut prendre des années. Je réfléchis, tu vois, j'en ai rien à faire. Travailler, réfléchir. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, qu'ils font beaucoup. On a parlé la semaine dernière aussi de Shalom Bayit. C'est quelque chose qu'ils font beaucoup, les rabbinim qui font le Shalom Bayit entre les gens. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une technique qu'ils utilisent beaucoup, mais c'est écrit dans la Torah, ça. Quand, par exemple, quelqu'un, il dit, j'aime pas ma femme. J'aime pas, je la déteste, je supporte pas. D'accord, j'en ai marre d'elle, elle me casse les pieds. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire, le Rav? C'est très sérieux, c'est écrit ça dans la Torah. Il va te dire, c'est parce que tu réalises pas qui est ta femme pour toi. Tellement t'as mis du méchitzot, deux mots, et des pensées sur elle, etc. T'as mis du méchitza.
Elle aussi,
bien sûr, les deux en ont mis. Il y a jamais un seul fautif. Ça, c'est, voilà, c'est la base. En général, il y a toujours deux fautifs. Qu'est-ce qui se passe? On a mis du méchitza. On te dit, le Rav va te dire, il faut que tu réalises. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu réalises qui elle représente pour toi en vérité et que c'est grave ce qui se passe. Mais en vérité, j'en ai rien à faire. J'essaie de me dire que c'est grave, mais j'en ai rien à faire. Et je vais réfléchir. Jusqu'à un moment, peut-être qu'il y aura un déclic que je vais comprendre et réaliser que c'est grave. Ce déclic, peut-être il viendra, peut-être il viendra pas. Nous, on doit essayer. Voilà pourquoi il te dit ici que la punition qu'on donne au rachat, c'est que Dieu lui enlève le fait qu'il réalise, il réalise pas. Et qu'après, il doit faire un effort très très difficile pour essayer de réaliser quelque chose qui le dépasse. Alors, ça peut prendre des années, ça peut prendre très longtemps. Sauf si, Dieu préserve, il y a un événement, une catastrophe qui arrive dans sa vie. Donc,
question, est-ce que la catastrophe serait là pour lui faire faire tchouba?
Non, j'ai pas dit ça. Ah, non, j'ai pas dit ça. Non, non. Okay. Shalom. Papa.
Même pas un
il y a des appels de phare de Dieu, c'est évident ça.
Mais c'est pas ça. C'est autre chose.
Ouais. Il peut avoir un appel de phare de Dieu. Par exemple, il a un truc, il a une galère qui lui arrive et comment il se remet en question. Je ne parle pas d'une personne qui parle de. Ça veut dire. Il faut savoir que chaque personne, chaque juif est un but en soi. On ne va pas tuer quelqu'un pour qu'un autre fasse teshuva. C'est évident. Il y a pas de... Chaque juif, le monde a été créé que pour lui. Donc on ne va pas tuer monsieur 1 pour que l'autre. Il y a pas, on est, chaque juif, un juif n'est pas un moyen. Il est un but en soi. Mais bon, quand même. Au passage, on peut obtenir un but supplémentaire, à savoir que la personne fait teshuva. Et ça, c'est un classique, on en voit très souvent. On va essayer de parler un petit peu plus maintenant sur cette notion-là.
Donc, c'est pas impossible.
Ça veut dire, alors justement, c'est très compliqué.
Non, mais c'est-à-dire, c'est pas impossible au final de lancer une bulle de billard et que ça tape aussi de l'autre côté. Ça veut dire mettre mal à quelqu'un, faire disparaître quelqu'un parce qu'il a fini son but, en rejoignant un second but et en le faisant
d'une pierre deux coups.
C'est impossible dans le sens que c'est très, 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 très compliqué. Non, c'est possible dans le sens que si tu vas forcer, tu pourras finir par percer. Mais c'est très, très, très dur. D'accord ? C'est très, très, très dur. C'est-à-dire, une fois que tu es pris dans un cercle vicieux, pour s'en sortir, c'est très. C'est comme le drogué, vous avez dit le drogué. T'as même dit le drogué, il est mort, c'est fini. Maintenant, avec beaucoup de volonté, il va faire une cure. Alors peut-être il va essayer, après il va retomber, après il va réessayer. Mais la vérité, c'est un challenge toute sa vie. Toute sa vie. D'accord ? C'est possible. Tout est possible.
Bah, évidemment, tout est d'accord. Possible. Possible aussi de s'épouser
des ailes. Hein. Alors, merci. Tout le monde chez Katouf Bezoar. Al Pasouk, alors on va lire maintenant ce qu'il dit ici du Zohar.
On a tous sa parole.
On a tous, bien sûr, c'est clair ça. On a, sur quelque part, chacun de nous, sur une avéra ou plusieurs avérotes spécifiques, on est un vrai rachat. C'est-à-dire qu'on le fait volontairement et que du coup on est pris dans un cercle vicieux. C'est sûr ça, chacun de nous on est comme ça. Donc il explique. Il dit que finalement ce rachat-là, comment on peut sortir du cercle vicieux? C'est en réalisant que c'est grave. En réalisant que c'est grave, en réalisant que c'est quelque chose de compliqué. Moi, je katouf bezoar, comme dit le Zohar, al pasuk zivre Elohim ruach nishbara, lev nishbar. Que le sacrifice à Dieu qu'on peut donner, c'est quoi le sacrifice qu'on peut amener à Dieu? C'est un cœur brisé, un esprit brisé, un cœur brisé. Qu'est-ce que dit le Zohar? Chaliede lev nishbar, nishbera ruach atuma desitrachara. Que par le cœur brisé, on va briser l'esprit de l'impureté. Ça veut dire comme ça, c'est très puissant ce qu'a dit le Zohar. Il dit en vérité, à force de faire une avéra, je crée dans ma tête et dans ma personne un esprit d'impureté. Je deviens impur, je deviens mauvais. C'est-à-dire qu'on peut devenir mauvais. Par exemple, prendre quelqu'un par exemple qui devient moqueur. À force d'être moqueur, il devient moqueur. Il y a un esprit de moquerie qui est en lui, qui est très 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 difficile à s'en sortir. Il ne part pas. À force d'être coléreux, il devient coléreux. C'est très difficile, il y a un esprit qui l'enveloppe. Te dit le Zohar, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas briser ton cœur, pour comprendre que c'est grave, le cœur brisé va briser l'esprit. Le cœur brisé va briser l'esprit tordu qui est venu en toi. C'est la seule solution, il n'y a aucune autre solution à part ça. Quand on a une situation volontaire, la seule solution, c'est d'arriver à une situation de lev nishbar, de briser le cœur. Que le cœur réalise qu'il y a un problème. Donc lev ruach nishbara, lev nishbar. Et ça, qui c'est qui dit ça? C'est le roi David qui dit ça dans le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume, le fameux psaume que le roi David a fait sur la Teshuvah. C'est un psaume très connu, d'accord? D'ailleurs, on le dit plusieurs fois, etc. Il y a beaucoup de philotes qui sont basés sur ce psaume-là. C'est un psaume qui dit comme ça. Là-bas, il dit comme ça. Il dit, Zifre Elohim ruach nishbara, lev nishbar venitke Elohim lotivze. Traduction. Un cœur brisé et oppressé, Dieu, tu ne pourras pas dédaigner. Pourquoi il parle du cœur à chaque fois? Maintenant, on comprend pourquoi. On fait pas Teshuvah avec le cœur, on fait Teshuvah avec la raison. Je vois avec la raison, que je comprends que c'est grave. Pourquoi il parle du cœur? Parce que le roi David, dans ce psaume-là, il parle d'une personne qui est tellement il a fauté, que son esprit ne peut plus rien faire. Son esprit est déjà pris, son esprit est mauvais. Il a une logique tordue. Il est tordu, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et que la seule chose qui peut le sauver, c'est quoi? C'est son cœur. Quand son cœur va se briser et qu'il va comprendre que c'est grave ce qu'il a fait, alors là, à ce moment-là, peut-être que son esprit va commencer à décoller. Donc il n'y a pas le choix. Il n'aura pas le choix de passer par une situation difficile. Combien d'histoires on avait avec les tzadikim? Quand il y a des gens pas bien qui sont venus les voir, des gens très chers qui sont venus les voir, le tzaddik il le déchire. Et quand je te dis il le déchire. Pourtant, il sera attendu que le tzaddik lui parle. Pourtant, d'accord, il dit t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Mais le tzaddik il le déchire. Parce que des fois, le tzaddik il sent que cette personne-là, tellement il est descendu bas, que la seule solution pour lui de s'en sortir, c'est qu'il comprenne que c'est grave ce qu'il a fait. Et qu'il y a des situations dans lesquelles, quand on voit une personne qui a fauté, la seule façon de lui faire comprendre, c'est en le cassant. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'explique ce que je veux dire. Si par exemple j'ai un ami, qui est dans une situation catastrophique, qui se comporte pas bien. J'essaie de lui parler, ça passe pas. Je me dis, bon, bah, puis ça passe pas. Alors dans ce cas-là, je vais essayer de le briser son cœur. Bah, je vais essayer de le choquer. Ça, on va expliquer après en télé-attention. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui sait quand envoyer des chocs, à quelle dose. Moi, je le fais pas. Moi, j'ai toujours attendu. Tzadikim, ok. Alors un tzadik, parce qu'il transmet le message à Kadosh Baruch Hu. Mais moi, qui est un commun des mortels, je peux pas commencer maintenant à choquer quelqu'un. On fait pas comme ça. Alors, si c'est un père qui fait ça à son fils, c'est une chose. Mais Stam, comme ça le faire un ami, ça je peux pas le faire. Mais il y a des situations dans la vie, dans lesquelles, tant que la personne passe pas par une situation de choc, il s'arrêtera pas. Il faut un choc à un moment. Tant qu'il y a pas de choc, il s'arrêtera pas. Il y a des gens qui passent. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que tant que la personne ne réalise pas la gravité de ce qu'il a fait, jamais il s'en sortira. Et ça, c'est le Zohar qui dit. Le Zohar, il dit tout passe par le cœur. Que le cœur, un cœur brisé, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. On dit comme ça. On raconte une histoire comme ça. On dit qu'une fois, Baal Shem Tov, il a demandé à l'un de ses élèves, il lui a demandé est-ce qu'il pouvait s'occuper de faire les tkiot shofar, de sonner le shofar à la synagogue du Baal Shem Tov. Alors bien sûr, l'élève a accepté, mais il a dit à une condition, j'aimerais que le Baal Shem Tov m'enseigne les kavanot que je dois avoir pendant les sonneries du shofar. Vous savez que quand on sonne le shofar, on est en train de faire des choses extraordinaires dans les sphères célestes. C'est extraordinaire, dans la Kabbalah, c'est énorme. C'est tellement énorme qu'on ne comprend même pas ce qui est écrit. Donc il a dit, je suis d'accord, de mémoire c'était Rabbi Zev Kitzes. Il a dit, je suis d'accord de faire les tkiot shofar, à condition que vous allez m'enseigner le secret des sonneries du shofar. Ça, il a demandé. Le Baal Shem Tov a accepté. Il lui a enseigné, et lui, Rabbi Zev, il a tout noté. Tout noté, les kavanot, etc. Tout. Il a préparé un papier, ordonné, etc. Les premières tkiot, deuxième tkiot, à quoi correspond chaque chose. Il avait vraiment, il comprenait ce qui se passait quand il sonnait. Dès qu'il arrive au moment de sonner le shofar, il sort le shofar, il cherche le papier. Il n'y a pas de papier. Il devient fou. Il cherche le papier comme un fou. Pas possible, il va sonner devant le Baal Shem Tov. Tout le monde est là. Il cherche le papier comme un fou. Il n'en peut plus. Il cherche, il se met à pleurer, il est comme un fou. Et non, il voit, il trouve pas le papier. Il se met à sonner le chauffard. Parce qu'il n'avait pas le choix, c'était l'heure, il fallait sonner le chauffard. Il se met à sonner le chauffard sans papier. Avec son cœur. Il a fait le chauffard en pleurant, enfin une catastrophe. D'accord? Alors après, le Baal Shem Tov lui a parlé, après les tkiot, il a parlé, le Baal Shem Tov lui a dit comme ça. Le Baal Shem Tov lui a dit. Il a dit, pour accéder les sphères célestes, chaque échal, chaque sphère céleste a sa clé. Et ça, c'est le saut des tkiot. Quand on apprend les kavanot qu'il y a dans les tkiot shofar, c'est apprendre différentes clés qu'il y a pour différentes portes. Mais il dit, il y a une clé qui passe partout. C'est le cœur brisé. Le cœur brisé, ça ouvre toutes les portes. Il a dit, c'est pour ça que Hachem a fait que tu as perdu le papier. Je ne sais même pas s'il l'a retrouvé après. Dieu a fait que tu as perdu le papier. Parce que grâce au fait que tu as perdu le papier, tu as découvert le passe partout. Dans ton papier, il y avait la clé d'ici, la clé de là-bas, la clé de là-bas. Mais quand tu as perdu le papier, tu as trouvé une clé qui passe partout, qui est le cœur brisé. Le clé, ah, c'est lui? Je sais pas. Je sais pas. On raconte aussi, puisque j'ai parlé du.
C'est brisé par n'importe quoi?
Non. Cœur brisé, ça veut dire que t'es dérangé, que t'es pas bien. Cassé à l'intérieur.
Par n'importe quoi?
Non.
Je peux faire des avérotes et avoir un cœur brisé pour autre chose que l'avéra que j'ai faite.
Ah bien sûr, mais justement, ça veut dire que là, je parle de la personne qui a le cœur brisé de la vera qu'il a fait.
Le cœur brisé. Le type, il avait le cœur brisé.
Il avait le cœur brisé parce qu'il savait qu'il allait sonner le chauffard, il savait qu'il lui manquait les cavanotes. Il était dérangé qu'il n'avait pas les cavanotes.
Non, mais pourquoi ça s'ouvre les portes?
Parce que le fait qu'il était dérangé qu'il n'avait pas les cavanotes, il a fait des chouvas énormes. Il a essayé, si tu veux, de trouver les cavanotes en lui.
Ah, bon. Mais quand on dit corps brisé, manière, c'est. Quand tu dis cœur brisé, manière, c'est pour faire ressortir les sentiments. C'est ça le.
Non.
Le, même pas.
Non. C'est un bon point ce qu'il dit. Il dit, est-ce que le but du cœur brisé, c'est de faire ressortir les sentiments?
Les vrais sentiments et la vérité de.
Non, c'est pas forcément le but.
C'est pas ça.
Le but du cœur brisé, c'est de casser l'orgueil. Parce que chaque fois qu'on fait une avéra, on crée un voile. Ce voile, c'est l'orgueil. De dire, je fais ce que je veux. C'est moi le patron ici. Et quand tu as le cœur brisé, tu casses ce voile. Tu réalises que c'est Dieu le patron. C'est comme l'histoire de ce tzaddik, de ce Rabbi Zev Kitzes. Il croyait qu'il gérait. Tu vois, il avait le papier organisé, tac, 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 tac. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réalisé qu'il n'avait pas le papier, donc il gérait plus. Donc ça a cassé quelque chose en lui. C'est quoi?
Ils veulent plus.
On va en parler, ça. Comment briser l'orgueil?
Ils veulent, du moins.
C'est la clé. Comment briser l'orgueil?
C'est ça l'histoire. Comment
bien sûr.
Il lui a pas dit après.
Il faut se travailler.
Puisqu'on parlait du, puisqu'on parlait des cendriers du chauffard, une petite histoire qui n'a rien à voir, mais une petite histoire avec les cendriers du chauffard, avec l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, une fois, le Magid de Meserich, son maître. Donc le Magid de Meserich, donc le Baal Shem Tov, son élève principal, c'est le Magid de Meserich. Et le Magid de Meserich, son élève principal, en tout cas un de ses élèves principaux, c'était l'Admour Hazaken, l'auteur du Tania. Et donc une fois, le Magid de Meserich, il a demandé à son élève, qui était encore son élève, l'Admour Hazaken, l'auteur de ce livre qui était encore son élève, il lui a dit, est-ce que tu peux t'occuper de sonner les cendriers du chauffard? Alors l'Admour Hazaken, bien sûr, il a accepté, il a dit oui, mais il a dit toujours le même, il dit, d'abord je vais vous enseigner les Kavanot. Bon. Il lui a enseigné les Kavanot, toutes les Kavanot du chauffard, d'après le Magid de Meserich. D'ailleurs, il nous a compilé une partie des Kavanot du chauffard, l'Admour Hazaken a compilé une partie. Et après, l'Admour Hazaken dit, mais il y a un problème, je ne sais pas sonner. C'est pourquoi il ne sait pas sonner. On dit chez les Rassini, parce que l'Admour Hazaken, quand est-ce qu'on apprend à sonner le chauffard? Quand on est enfant. Quand tu es enfant, c'est là que tu t'entraînes. Et après, d'accord. Mais il n'a jamais été enfant. Depuis qu'il était petit, il ne jouait pas. Tout le temps, il était en train d'étudier. Donc, il n'a jamais appris à sonner. Alors, le Magid de Meserich, je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Il a dit, parce que je savais que vous n'allez pas enseigner les Kavanot. Et il a dit, l'Admour Hazaken, il a dit qu'il y a des fois des choses comme ça qu'on prend. C'est pas du vol, mais c'est des choses qu'on comprend comme ça. D'accord, c'est par la ruse. Oui, c'est la ruse. Comme Yaakov l'a fait avec Esav. Enfin bon, que des choses comme ça, il a dit, c'est très doux. Comme Shlomo HaMelech, il dit, Maim Gnuvim Imteku. Des eaux volées sont douces. Est-ce que l'eau c'est doux? Est-ce que l'eau ça a du goût? Parce que quand c'est quelque chose qui est pris d'une manière.
Est-ce que le vol c'est doux?
Non. Il y a un vol cachère, si on peut dire ça comme ça. Bon, je referme la parenthèse, d'accord?
Lequel?
Non, le vol de Rabbi Israël.
Je referme la parenthèse. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de briser le cœur? Comment on brise son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire briser le cœur? Est-ce qu'il y a une kavana particulière à avoir? Comment on peut briser son cœur?
Mais comment on veut dire que si je trompe ma femme, c'est parce que j'ai de l'orgueil? Il faut que je casse l'orgueil.
Parce que si le bonhomme, il a trompé sa femme, d'accord. Pourquoi il a trompé sa femme?
Non, mais non. Mais ça n'est pas.
D'accord. Monsieur Christian, voilà, on va parler d'un goy. Monsieur Christian, il a trompé sa femme. Pourquoi il a trompé sa femme?
Non, réponds. Tu la poses plus.
Sérieusement, on va répondre à la question. Pourquoi il a trompé sa femme? Pourquoi il a trompé sa femme?
Il voulait avoir du plaisir, c'est tout.
D'accord. Mais il sait que c'est interdit.
Non, il voulait avoir du plaisir.
Attends. Non, je posais la question à Mickaël. Élie, pardon. Nickel, c'est toi, nickel. Alors, je repose la question. Pourquoi il a trompé sa femme?
Pour du plaisir,
ouais. Pourquoi? Il dit parce que je l'aime. Il l'aime, non, c'est pas elle qui aime, c'est lui qui s'aime. Il s'aime à lui-même. D'accord. Donc, c'est pas du plaisir, mais il sait que c'est interdit. Pourquoi il l'a fait quand même?
Parce que ça lui procure du plaisir.
Parce que c'est un bonhomme qui est orgueilleux et qu'il en a rien à faire. Il en a rien à faire de ce que ça va faire. Lui, ce qui compte, c'est que moi, je veux avoir mon plaisir. Maintenant, après les effets, ben, je n'ai rien à faire, on se débrouillera. Moi, je veux avoir ce que j'ai. C'est de l'orgueil. Ça s'appelle l'orgueil. Maintenant, à force d'avoir de l'orgueil, tout est à la base de l'orgueil. À force de se laisser aller, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il dit, finalement, ça ne dérange plus, parce que son orgueil est plus fort que tout. On dit comme ça. C'est écrit, Al-Kol Pshaim, le roi Salomon dit, Al-Kol Pshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes couvre l'amour. L'amour, c'est l'orgueil. Pourquoi? Exemple. Quand, par exemple, j'apprends que ma femme a un problème, Dieu préserve, ou que mon fils a un problème, ça va me déranger, Chasve Shalom. Ça va me déranger. Je ne vais pas dormir tranquillement. Mais quand moi j'apprends que j'ai un problème, je dors sur les deux oreilles. Pourquoi ça ne me dérange pas? Pourtant je connais mieux que tout le monde le problème. Quand quelqu'un vient me dire tu sais t'as un problème, j'ai envie de lui dire mais tu n'as même pas tout vu, il y a des détails que t'as pas vu encore. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que l'amour que j'ai de moi couvre tous les défauts. C'est de l'orgueil. C'est-à-dire l'amour que j'ai de moi me dit bah, j'ai les défauts mais j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Quand t'as quelque chose qui se brise en toi, tu casses l'orgueil. Quand tu casses l'orgueil, tu réalises la gravité que tu as fait. Tu enlèves le voile qui t'empêchait de réaliser la gravité de ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'en vérité, le corps réalise tout le temps la gravité de ce qu'on fait. Mais on se force à ne pas voir. Tu comprends ce que je veux dire? Puisqu'on, tout à l'heure, par exemple, on prenait l'exemple du drogué. Le drogué, il sait, son corps sait qu'il fait ce qui n'est pas bien. Il le sait très bien. Mais par l'orgueil, il dit, je fais ce que je veux. Quand son cœur se brise, c'est là qu'à ce moment-là, ça remonte à la surface, qu'il commence à réaliser ce qu'il a fait. Ce qu'en vérité, il a toujours réalisé, mais à cause de son orgueil, il n'arrivait pas à réaliser. Il n'y a rien de plus grave que l'orgueil. Il n'y a pas de pire défaut au monde que l'orgueil. C'est mon avis, et c'est bon, on verra dans la Gemara aussi, mais ça, il le dit clairement.
L'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est...
Oui, c'est la base de tous les problèmes. On connaît des gens, par exemple, qui ont plein de bonnes qualités, qui sont des gens bien, etc. Mais l'orgueil, c'est les tue.
en final, tu as l'air de dire que l'orgueil, c'est la source.
Bien sûr, tous, on est tous orgueilleux. Il y a certains pays où ils sont plus orgueilleux que d'autres pays, quand même. Ouais. Alors.
Non, aucun, aucun.
Oui, c'est connu. Il y en a qui s'en foutent complètement. Il y en a qui sont pas du tout orgueilleux.
Comment tu m'as pas apporté l'orgueil?
Alors, faut avouer à moitié pardonner.
Non, mais orgueilleux.
Mais
ou
tout est à base d'orgueil.
Mais pas d'orgueil. Non, mais il faut une petite pointe d'orgueil.
Il faut de l'orgueil. Faut de l'orgueil. Un petit peu. Mais voilà, l'orgueil fait que la Vera ne me dérange pas. Même envers un Kadosh Baruch Hu, je peux être orgueilleux. Vous savez ce que dit un Kadosh Baruch Hu sur l'orgueilleux? Il dit celui qui est orgueilleux, en anivao yocholim ladour. Lui et moi peuvent habiter dans la même maison. Parce que l'orgueil, ça prend de la place. Quand tu prends de la place, eh ben, Dieu ne peut pas rentrer. Quand t'es là partout.
Ah non, s'il est orgueilleux, il va avoir une plus grande maison encore.
Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Rabbi Rachab et il lui a dit, Rabbi, je suis très embêté. Dans ma synagogue, tout le monde m'écrase. Tout le monde m'écrase, qu'est-ce que je peux faire? Alors, Rabbi lui a répondu, il a dit, c'est normal. Partout où il veut marcher, tu es là.
Partout
où il veut marcher, si tu es là. Prends trop de place.
Et la fierté, c'est pareil.
C'est la même chose. C'est la même chose.
C'est bien.
La fierté, ça tue une personne. Ça tue une personne. Parce que, voilà, ça fait en sorte que j'arrive pas, Dieu n'arrive pas à rentrer. Puisqu'on parle de l'orgueil aussi, une autre histoire. Une fois, Rabbi Israël de Rougim est arrivé dans une ville. Et dans cette ville, dès qu'il est arrivé, les chassidim l'ont dit, il y a plusieurs personnes qui ont proposé une maison pour que vous séjournez le temps que vous allez rester dans la ville. Il y a deux options qui nous paraissent bien. La maison de monsieur Intel, la maison de monsieur Intel. Alors il dit, bon, décrivez-moi qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Il dit, voilà, monsieur Intel numéro 1. Bon, il n'est pas très religieux, mais il va tout faire la maison cachère parfaitement pour vous. Bon, c'est un bon juif, mais il n'est pas religieux à 100%. Le deuxième, c'est un juif très religieux, mais très orgueilleux. C'est son défaut. Rabbi Israël de Rougine, il a dit, vous me prenez la première maison. Ça fait un scandale dans la ville. Mais comment un rabbi vient, il n'a pas chez le religieux, comment c'est possible? Alors ça fait un tollé, ça fait un scandale, d'accord? Alors Rabbi Israël de Rougi, il a répondu comme ça. Il a dit, c'est très simple, c'est écrit clairement dans la Gemara. Quand il y a un rachat qui fait une avéra, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit? Kadosh Baruch Hu dit, imo anochi betzara, je suis avec lui quand il est dans sa galère. C'est-à-dire que, afal pishechata, Israël ou, même s'il a fauté, il reste juif. Mais par contre, quand c'est une personne qui est orgueilleuse, la Gemara dit clairement, elle dit, en aniva ou yucholim ladour. Je ne peux pas habiter avec lui. Alors Rabbi Israël de Rougine, il a dit, vous croyez que moi je vais l'habiter chez quelqu'un chez qui Dieu ne peut pas habiter? Et avec ça, il a montré au chassidim que l'orgueil, c'est quelque chose qui peut détruire une personne. Tu peux être juif religieux, mais l'orgueil, ça peut être complètement te détruire.
Il a cassé le cœur, religieux.
Peut-être. Oui, ce sera à sa place, oui.
Donc il a fait des chevaux, du coup,
il est à base d'orgueil. Mais vous verrez sérieusement, la clé, la base de tous les problèmes qu'il y a entre un homme et une femme, qu'il y a entre tout ce que tu veux, c'est l'orgueil. On sait qu'on a un problème. On ne veut pas admettre qu'on a un problème. Je ne veux pas admettre parce que j'ai l'orgueil. Mon orgueil fait que je ne veux pas admettre que j'ai un problème. Le jour où je réalise que je suis orgueilleux, qu'il y a un problème, eh ben, le jour où mon orgueil se casse, c'est le problème s'en va. Mais d'un autre côté, l'orgueil, c'est important d'avoir un peu d'orgueil. Parce que sans orgueil, tu n'as pas de personnalité. L'orgueil, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Il faut bien que j'ai un peu de personnalité.
Alors, la fierté, quoi.
Bien sûr, vous avez raison. Plusieurs ont posé la question, ils ont dit, est-ce que ça veut dire que la fierté, c'est pas bien? Il faut de la fierté. Mais trop de fierté, c'est pas bon. Et c'est ça ce qui fait que le rachat devient rachat. C'est que sa fierté fait qu'il ne calcule plus la Kadosh Baruch Hu. Donc il faut casser cette fierté. Comment il va casser cette fierté? Tout de suite, on va expliquer. Ve'uprinat, tshuva.
D'être juif et de pratiquer. Voilà.
Alors, ve'uprinat, tshuva, tata'a. C'est ce qu'on appelle la teshuva de bas niveau. Je vais expliquer tout de suite. Le'alot et tata'a, de faire monter le et d'en bas. Je vais expliquer tout de suite. Hein. C'est des mots de Kabbalah, je vais expliquer tout de suite. La kima min filata, shenafle la chitsonim, shu sot galut ashrina. Que je vais aider ma neshama à remonter dans l'endroit où elle est tombée. Ça veut dire comme ça. Dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux he. Yud ke, vav ke. Deux he. Ces deux he représentent deux types de teshuva. Le he d'en haut représente une teshuva de haut niveau. Le he d'en bas représente une teshuva de bas niveau. J'explique tout de suite. Il y a deux types de teshuva. Il y a une personne qui fait teshuva envers Dieu par amour. Bah, il a vu la lumière, voilà, le bonhomme, ça, il est fini, il veut monter. Ça, c'est une teshuva de haut niveau. C'est-à-dire qu'il fait teshuva par amour, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a envie de s'approcher de Dieu. Mais il y a une teshuva de bas niveau. Et ce qui est la teshuva que la majorité des gens ont. La majorité des gens ont, quand ils font teshuva, c'est ça. C'est la teshuva de bas niveau. Ça veut dire que, il a utilisé le mal pour comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Donc le mal l'a aidé à comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. À force d'analyser le mal qu'il a fait, il a compris que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a réalisé, en faisant le mal, que le mal n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle une teshuva de bas niveau. Maintenant, c'est pas seulement qu'il a compris, c'est qu'il va devoir, comme il dit ici, il va devoir réaliser. Il va devoir réaliser que ce qu'il a fait, que ce qu'il a fait, c'est très grave. Ça, il explique ici, le Tanya. Alors ça, il explique, il rentre pas beaucoup dans les détails ici. Il s'expliquait plus longuement dans Igeret Hatshuva du Tanya, qu'on expliquera dans quelques années, Bezrat Hashem. Il dit que ça, c'est un travail qui dure des années. Teshuva, ça se fait en une seconde. La décision de faire Teshuva peut durer une seconde. Mais après, la Teshuva en soi, elle peut durer des années. Ça veut dire réaliser que c'est pas bien et comment faire Teshuva. Ça prend des années, des années, des années.